prévoir un projet d'immigration, visiteur et travail, un permis de travail qui est ouvert et j'en passe, gens d'affaires, permis d'études, il y a tellement d'histoires, il y a autant d'histoires d'immigration qu'il y a d'immigrants. Maître Alexandre Hainaut, au sein d'une équipe d'avocats ici à Montréal et à Paris, travaille avec des gens qui font des projets d'immigration. Il est mon invité aujourd'hui. Maître Hainaut, bonjour.
Bonjour, Monsieur Limarteau.
Je dis en ouverture, il y a autant d'histoires d'immigration que d'individus, parce que chaque situation est unique, là.
Oui, c'est la bonne chose à dire préalablement. C'est ce que je dis la plupart du temps à tous mes clients. Votre situation n'est pas la même que votre voisin. Vous pouvez voir beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, vous dire que ça ressemble exactement à votre situation. Chacun est un cas unique et il faut bien l'avoir en tête.
Et quand on travaille dans le monde de l'immigration, on ne peut pas ratisser tous les dossiers du réfugié à l'immigrant économique. C'est trop vaste.
C'est très vaste et je pense que les immigrants préfèrent avoir des personnes qui peuvent répondre à leur situation et les comprendre. L'aspect culturel, on vient des mêmes pays, on peut avoir des mêmes origines. Donc on apprend à se comprendre. Parler une langue similaire, ça va. Mm-hmm. Mais bien se comprendre, c'est important dans un projet d'immigration. Donc après, comme vous le disiez très justement, on a vocation dans sa pratique à la réduire. Un champ de réfugiés, un champ de parrainage, par exemple des demandes de regroupement familial, mm-hmm. ou des aspects plus économiques, qui est l'activité que je traite principalement.
Qu'est-ce qui a fait qu'Alexandre Hainaut s'est dit, moi, avocat français d'origine, j'ai décidé de faire ce pont-là entre le Canada, parenthèse, le Québec, le Nouveau-Brunswick, surtout en français, et la France et la Belgique, pour travailler dans ce domaine?
Beaucoup de choses. D'abord, aimer son prochain. On est avocat d'abord pour aider les gens, même si on peut faire du litige, on peut faire beaucoup de choses, on travaille pour des compagnies. C'est en nous, je pense qu'on aime ce métier-là, et c'est ce que je fais depuis une quinzaine d'années. Maintenant, d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir étudié dans plusieurs pays, et puis dans des projets d'immigration. Moi-même, j'ai accompli ma procédure d'immigration, de me dire, je suis francophone, je viens d'une région entre deux pays, entre la Belgique, la France, je suis ch'ti, je revendique ma province, et ben pourquoi pas tenter le Québec, ça reste francophone, c'est plus simple peut-être pour s'y établir. Puis ensuite, de servir un peu de traducteur culturel. J'ai échangé avec un professeur de l'Université Laval qui m'a fait penser à ça, et je l'utilise souvent avec plaisir. C'est vrai que de rencontrer des personnes de certains pays où j'ai pu aller, que je peux connaître, où j'ai pu vivre, on se comprend. Et donc, dans un projet où il y a beaucoup de détachement de son pays d'origine pour arriver un peu dans l'inconnu, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des petits points de repère, et même si c'est son avocat et qui n'est pas forcément un membre de sa famille.
Traducteur culturel, le terme est très, très beau.
Oui, j'apprécie beaucoup.
Dans le monde de l'immigration dite économique, est-ce qu'il y a eu des grands changements au fil des peu près des 10 dernières années dans ce profil du travail?
L'entrepreneur, on peut l'envisager dans un pays d'accueil en se disant, pourquoi pas. Prenons l'exemple du Québec particulièrement, on voit, on le lit dans des articles de presse, qu'il y a pas mal de personnes, des boomers, qui vont partir à la retraite, qui sont entrepreneurs, qui ont parfois des difficultés à trouver la relève. Mais pourquoi pas, si la relève familiale ou la relève interne n'est pas possible, envisager l'immigration. Au Québec, par exemple, dans des régions du Québec, pourquoi pas se dire, est-ce qu'un entrepreneur francophone, européen, africain, même francophone ailleurs, dans un pays non francophone, pourquoi ne pourrait-il pas venir reprendre l'activité là, et cette activité, cette reprise, cette création d'emploi ou ce maintien d'emploi en région au Québec, ne pourrait-il pas correspondre aussi à son projet de création d'entreprise, de reprise d'entreprise c'est surtout son projet d'immigration personnelle.
Donc, il y a plusieurs vecteurs au projet lui-même de l'entrepreneur, du chômage régional qu'on coupe un peu parce qu'on garde une entreprise ouverte, mais aussi d'un projet d'immigration personnelle. Cela dit, il y a des embûches en cours de route. Quand on parle de la région, on arrive dans une zone très, très monochrome, très québécoise et très, très parlant le même groupe d'accent très précis.
Oui, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Je pense qu'il faut la mettre même au niveau plus pan-canadien. Mettons-la au niveau du Canada. C'est sûr que dans un projet d'immigration, venir, il peut y avoir des réserves de la part des personnes d'accueil. Et parfois, on en a besoin. Regardez dans l'actualité, et RCI en publie souvent, on voit des reportages. Par exemple, je crois que c'était au Nouveau-Brunswick, c'était peut-être pas RCI, mais l'Acadie Nouvelle qui a dû publier récemment une personne qui cherchait dans ses pêcheries du personnel qu'elle trouvait en Gaspésie. Il a été trouver à l'étranger, pourquoi pas, on peut en avoir besoin. Maintenant, la vraie problématique, oui, c'est de se dire, attention, quitter son pays, oui, savoir où on arrive, attention, faut le préparer un tout petit peu. Et surtout, beaucoup de personnes doivent déterminer leur projet. On ne sait jamais comment ça va se réaliser, mais bien savoir pourquoi ils quittent et comment ils envisagent d'arriver.
Vous avez évoqué à l'instant le Nouveau-Brunswick. Il y a des projets pilotes intéressants au Nouveau-Brunswick.
Oui, bien sûr, je suis membre du barreau du Québec, mais je suis un francophone et un francophile. Mais j'apprécie beaucoup les démarches qui sont entreprises éventuellement au Canada, d'abord pour atteindre les seuils de francophones dans les provinces hors Québec. Mais on voit au Nouveau-Brunswick des projets pilotes. L'initiative stratégique, il y a différentes choses qui permettent de faire venir de la population francophone dans cette province bilingue. Il y a également, on le voit au niveau de mobilité francophone, un programme de permis de travail qui a été réouvert récemment en juin dernier pour permettre d'aller chercher aussi des travailleurs francophones pour les faire venir dans des provinces hors Québec et dans des communautés francophones. Donc il y a une vraie politique, ou en tout cas une intention de vouloir développer la francophonie et faire venir les francophones au Canada globalement.
Maître Hainaut, au fil des années, vous avez eu des belles histoires dans lesquelles vous avez été impliqué, donc vous avez été témoin. En contrepartie, il y en a d'autres qui sont moins réussies, j'imagine.
Oui, des histoires, bien sûr, sous réserve du secret professionnel.
Mais oui, tout à fait, oui.
On voit des histoires très réussies, par exemple des personnes qui viennent, qui engagent mal leur immigration, et puis on arrive à trouver des solutions, puis ensuite on enchaîne un permis, puis ensuite si leur vocation, ils ont vocation à vouloir demander la résidence permanente, on essaye de pouvoir le faire, le mettre en place, et puis au final ils finissent par être résidents permanents, et ce sont des belles personnes qui sont accueillies par le Canada et qui vont participer à sa prospérité. Ça arrive. En revanche, d'autres situations, des projets qui viennent mal montés, précipiter, partir, tout quitter, mais sans vraiment un motif, si ce n'est de se dire peut-être qu'ailleurs c'est mieux, sans avoir fait de voyage exploratoire par exemple, sans s'être renseigné, en ayant tout vendu, en arrivant ici, puis en se rendant compte que le climat c'est pas si simple, l'accueil n'est pas si facile, la reconnaissance des diplômes n'est pas toujours évidente, mais oui, parfois le projet finit mal, c'est certain. Alors quand c'est économique, ça reste purement financier, un déménagement, un retour éventuellement, c'est type de clientèle que je traite, mais où il y a une fuite d'une situation très délicate dans son pays, ça peut s'avérer vraiment problématique.
Thank you. premier conseil que vous donnez à un client qui se présente chez vous, qui dit « j'aurais un projet d'immigration pour aller vivre au Canada, quelque part ».
Le premier conseil, c'est d'abord de bien déterminer ce qu'il veut faire, mais c'est surtout de lui faire comprendre que l'immigration, c'est logique. C'est-à-dire que c'est une réglementation, c'est des règlements, c'est des lois, et c'est surtout de lui faire comprendre qu'on est dans un État fédéral. Et l'État fédéral, pour beaucoup de pays, parce qu'il n'y a pas des États fédéraux partout dans le monde, c'est une notion, c'est une dichotomie. C'est des deux étapes, au niveau canadien et au niveau provincial. Au niveau du Québec, que le Québec va avoir son mot à dire en matière d'immigration, puis ensuite, le Canada va donner son aval pour permettre à cette personne de rentrer sur le territoire pour ensuite aller demeurer dans la province qu'il aura choisie. Au niveau d'entrée express, au niveau hors Québec, le Canada va faire venir certaines personnes, ou en tout cas en traiter leurs demandes, mais préalablement, elles auront peut-être dû soumettre des demandes au niveau de la province dans laquelle elles vont vivre, l'Alberta, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick. Donc bien comprendre que les délais peuvent être longs compte tenu de parfois cette dichotomie et de l'analyse en deux temps que va prendre leur procédure d'immigration.
Et on revient avec une boutade d'ici qui dit « quand on met deux Canadiens dans une pièce, on arrive parfois avec trois opinions ».
La boutade est assez réelle et peut se retrouver assez fréquemment en matière d'immigration.
Maître Alexandre Hainaut, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
C'était un plaisir. Merci à vous.